Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et en ce dernier dimanche des vacances de la Toussaint, et oui, nous sommes déjà le 7 novembre, mais nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour Pierre.
Salut Maloulo, comment que ça roule?
Merveilleusement bien, j'espère que tu as passé de bonnes vacances de la Toussaint.
Ouais, je suis tout bronzé, je reviens de la plage en SUV, comme diraient certains.
En tout cas, j'espère que tout le monde en a profité, et vous êtes peut-être d'ailleurs sur la route des retours, donc soyez prudents, parce que vous l'avez constaté, vous n'êtes pas tout seul. Alors, nous allons dans quelques minutes parler de la fameuse voiture autonome. Et cette voiture autonome qui, dans les années 50, sera peut-être la voiture autonome de tout le monde. De toi, Pierre, de moi,
dans
de
les
vous.
Années 50. Qui... C'est marrant quand tu dis ça, parce que dans les années 50, ça nous projette maintenant. Alors que...
Ah ben oui, c'est vrai.
Ah oui,
dans
que moi...
2050. Mais
moi,
oui.
Quand on me dit les années 50, je pense toujours à 1950.
Non,
marrant, dans les années 50,
les
maintenant,
années 50,
hop
ouais.
Là, on bascule en avant.
On parlera donc des voitures autonomes. Vous êtes attendus, vous aussi, vous le savez, à la fin de chaque émission, ça roule le dimanche soir, à venir échanger avec Pierre Chasseret, à débattre, à proposer des solutions, à dire ce qui vous gêne, ce qui vous énerve. Eh bien, vous vous êtes attendus au 0800 26 300 300 sur les sujets de la route, bien évidemment. Mais tout de suite, le premier sujet de ça roule concerne les ventes de voitures neuves qui s'effondrent en France. Quelles en sont les causes et les conséquences? On en parle tout de suite avec notre invité et avec vous, 0800 26 300 300.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Le marché de l'occasion explose, les voitures deviennent de plus en plus chères sur le marché de l'occasion, la filière automobile craint le pire, oui, les ventes de voitures neuves s'effondrent en France. On en parle avec notre invité Fabrice Godefroy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. 40 millions d'automobilistes, vous en êtes l'expert mobilité, entre autres. Pourquoi les ventes de voitures neuves s'écroulent? C'est pas juste à cause des composants?
Alors, effectivement, il y a la pénurie, notamment, ce qui est très médiatisé actuellement, c'est les semi-conducteurs, mais il y a une pénurie de pièces avec des délais qui s'allongent pour l'approvisionnement, et ça, j'en sais quelque chose, parce qu'au niveau de la pièce détachée automobile, on en est des vendeurs, donc on voit très bien que, bah voilà, il y a une petite pénurie là-dessus. Donc ça, c'est certain que ça touche évidemment la première monde, c'est-à-dire la fabrication et l'assemblage des véhicules avec cette crise des semi-conducteurs, qui est un gros problème, sur lequel, d'ailleurs, je rappelle que l'Europe n'en produit que 10%, comme l'a dit Emmanuel Macron dernièrement. Donc effectivement, là-dessus, on est quand même un peu en retard et on est dépendant en fait des autres pays. Mais je pense qu'il y a d'autres phénomènes aussi. Alors, il y a un phénomène qui est évident, c'est qu'actuellement, compte tenu du contexte actuel, les gens ne savent plus trop quoi acheter en véhicule neuf. C'est-à-dire que, bon, alors le diesel est en chute libre. C'est sûr que là, on est à 20% maintenant des ventes. On a perdu, on est passé de 31% de diesel en 2020 à 21% en 2021. Et l'essence aussi, d'ailleurs, tombe aussi, parce qu'on en parle moins, mais en 2020, on vendait 49% de véhicules essence et maintenant, on en vend 41% en 2021. Donc, les gens ne savent plus trop quoi acheter. On les pousse vers des véhicules 100% électriques, mais qui ne sont pas forcément adaptés à leur usage. On les pousse aussi sur l'hybride, mais l'hybride qui est évidemment plus cher. Et puis, il y a un troisième phénomène, c'est qu'effectivement, les primes à la reconversion et les bonus ne sont pas forcément adaptés aux besoins actuels, parce que tous les critères se sont resserrés. Donc, les gens, dans ce contexte-là, se disent, bon voilà, il faut que je change ma voiture, je ne sais pas trop quoi acheter, si j'achète un thermique, on risque de m'empêcher de rentrer, et donc ils planchent un véhicule d'occasion.
Il y a autre chose, des chiffres, c'est quand même là, on va avoir les chiffres en début novembre pour le mois d'octobre, mais en octobre pour le mois de septembre, il y avait 20,5% de moins de ventes. Sur le véhicule neuf, il y a quand même autre chose aussi. Il y a aussi une crainte de l'avenir. Je veux dire,
oui,
personne n'en parle.
Ah oui,
il y a eu la
aussi.
Covid.
Bien sûr, bien
il y a
sûr.
Eu tout ce qui se passe. Il y a la montée de l'énergie, les prix de l'EDF qui flambent, des gaz, des carburants. Les gens, on est des êtres humains. Je pense que maintenant, les gens commencent à avoir peur, Pierre. Et du coup, explique aussi peut-être une espèce de frilosité à acheter des véhicules.
Il y a tellement de choses. Il y a les mesures gouvernementales qui tombent, la pénurie des pièces, le manque de visibilité sur le véhicule de demain. Quelle sera l'énergie? Qu'est-ce qu'on doit choisir? Les coûts, les bonus-malus qui arrivent en plus. Bref, franchement, moi j'ai envie de me tourner vers l'occasion.
Et d'ailleurs, l'occasion flambe.
Et l'occasion
flambe. Les prix
de
l'occasion flambent.
Et derrière, ils vont encore flamber parce que les prix des véhicules électriques, des véhicules neufs sont de plus en plus chers. Ce qui est plus cher se retrouve sur le marché de l'occasion encore plus cher. En fait, le message qu'on est en train d'adresser aux Français, il est terrible. C'est qu'après des des années de démocratisation de la voiture où on a baissé les prix, baissé les coûts pour que tout le monde en ait une, aujourd'hui, ça redevient un produit de luxe. Pardon. C'est-à-dire que bientôt, pour s'acheter une voiture, eh bien, on fera faire partie d'une élite. Mmh. L'automobile redevient finalement un symbole presque de richesse sociale. Ouais. Ça devient trop cher d'entretenir une voiture.
Fabrice.
Bah, c'est sûr qu'on a de plus, on demande de plus en plus avec des normes, des technologies supplémentaires, que ça soit en dépollution, en confort et en sécurité, et tant mieux. Mais par contre, évidemment, bah, ça se retrouve dans le prix, ça c'est certain.
On a Michel-Ange qui est avec nous de Haute-Garonne. Bonjour Michel-Ange.
Bonjour à tous.
Merci
bonjour.
D'avoir fait de 0826-300-300. Vous en pensez quoi? Vous serez prêt à acheter une voiture neuve? Plus maintenant? Vous avez peur de l'avenir? On est aussi sur une année électorale présidentielle. Est-ce que les gens sont pas aussi en position de stand-by?
Bon, peut-être, mais moi, personnellement, acheter une voiture neuve, pour moi, il n'en est pas question. Pas parce que, bon, parce qu'elles sont chères, déjà, d'une part. Et je ne vous suis pas partant pour me faire mener pour acheter une voiture hybride ou électrique.
Ouais, y a un manque de confiance. Ça veut dire que ce type de motorisation n'a pas encore votre faveur. Je peux vous poser juste une question.
Oui.
Dites-nous, quels sont pour vous les freins? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'hybride, l'électrique, tout ça, vous regardez ça de loin, mais pas comme votre véhicule encore de demain?
Non, ben pourquoi? Ben c'est tout simple, parce qu'une voiture électrique, ben il va peut-être falloir prévoir des grandes rallonges, je pense.
Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de borne. Eh ben oui.
Parce que, à ma connaissance, excusez-moi de vous interrompre. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de voitures qui puissent se faire avec une grande autonomie et un rechargement assez rapide.
Borne, autonomie, rapidité.
On vend la voiture électrique. Ah oui, c'est bien de faire du tapage comme ça. Mais derrière tout ça, ce qu'on n'en parle pas non plus, il faut tenir compte, c'est le recyclage des batteries.
Il y a beaucoup de questions que j'entends dans le témoignage de Michel-Ange, Fabrice Godefroy, c'est-à-dire que effectivement la voiture électrique, je suis d'accord avec lui, on est en train de nous la survendre. J'ai l'impression que on n'est pas prêt, nous automobilistes. Alors certains oui, mais la grande majorité encore de basculer.
Alors, effectivement, le véhicule 100% électrique, on essaie de nous l'infuser un peu de force avec des subventions. Alors, tout converge maintenant, les bonus, les primes sur, effectivement, le véhicule 100% électrique. Pour l'instant, c'est 8% des ventes. Et l'année dernière, c'était 6% des ventes. Donc, on voit très bien qu'on a quand même du mal à le faire. Ce qui progresse le plus, effectivement, c'est l'hybride, c'est-à-dire la voiture électrifiée. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une baisse du véhicule pur thermique, c'est-à-dire diesel et essence, qui est remplacée progressivement sur le véhicule hybride. On est à 25% maintenant de véhicules hybrides. Donc là, par contre, la progression est forte parce que 25% en 2021, on était à 12% en 2020. Donc là, la progression est forte. Mais en fait, c'est une transformation des véhicules thermiques. C'est-à-dire qu'en fait, les véhicules de plus en plus purement thermiques n'existent pas et de plus en plus, enfin, n'existent de moins en moins et vont être transformés en véhicules hybrides. Donc là, pour l'instant, la transition, en fait, entre les deux mondes, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire qu'entre le thermique et l'électrique, c'est l'hybride. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. C'est vraiment une transition.
Michel-Ange, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche d'acheter une voiture neuve? Mettons de côté les voitures électriques. Qu'est-ce qui, dans votre démarche d'automobiliste, fait qu'aujourd'hui vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas acheter une voiture neuve? Quelle est la raison?
Une voiture neuve aujourd'hui, c'est parce que j'ai une question de, je veux dire franchement, c'est une question un peu d'entretien, de fiabilité, quoi, finalement. Parce que les voitures neuves actuellement, la plupart, moi je me réfère simplement à un côté pratique, point de vue motorisation. La plupart maintenant, ils ont des croix de distribution. Et moi, je suis pour la chaîne de distribution. Vous voyez déjà, ça limite beaucoup de choses. C'est uniquement ça. Après, côté financier, oui, c'est vrai que celles-ci sont chères. Ça aussi, c'est vrai.
Ouais.
Donc c'est purement
financier et un peu pratique ou pratique dans le moteur pour vous.
Oui, pour les entretiens, parce que bon, une voiture à chaîne avec une chaîne de distribution plutôt qu'une courroie, bah il y a pas grand chose à faire comme entretien à vrai dire. Hein. Donc évidemment pour la prévente des concessions, ça tire un peu la langue après pour faire de l'argent derrière sur les automobilistes. Hein.
Fabrice,
faut dire les choses comme elles sont. Hein, je suis direct.
Est-ce que, non mais vous avez Michel, vous avez raison.
Alors c'est sûr.
Est-ce qu'il a raison, Michel-Ange?
C'est sûr que plus il y a de technologies dans véhicules, plus il peut y avoir des problématiques en termes de révision.
Mais là on parle juste de courroies. Hein.
Les courroies, les courroies à chaîne, c'est plus que constructeur allemand. Et puis bon, la courroie de distribution, c'est plutôt constructeur français.
Les constructeurs allemands font toujours de la chaîne.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Donc, en fait, Michel-Ange pourrait acheter.
Mais bon, d'un autre côté, vous savez.
Oui, pardon.
Non, allez-y.
Non, moi je disais que oui. Moi, le seul qui avait encore à chaîne, c'était. Bon, après, c'est les Allemands. Mais autrement, il y a encore une dizaine d'années, c'était chez Ford. Mais autrement, en France, c'est à longtemps qu'ils ont abandonné
comment,
pour des raisons.
Comment on explique, Pierre, et là, ce que nous explique Michel Ange, c'est juste à cause de cette chaîne, cette courroie de distribution.
Parce qu'en fait, c'est. Mais j'avais un peu le même réflexe. C'est-à-dire que tout de suite, un changement de courroie, effectivement, c'est un coût. Hein. Donc, à l'époque, c'était un coût extrêmement élevé, notamment dans l'automobile. Maintenant, il y a beaucoup d'électronique. Finalement, le changement d'une courroie de distribution, c'est pas beaucoup plus cher que lorsque vous avez un calculateur qui vous lâche, voire même je préfère changer une courroie de distrib qu'un calculateur. Mais voilà, c'est resté et ça donne cette image allemande de la fiabilité qui a été portée pendant des années. C'est la voiture où tu changes pas ta courroie de distrib, ta chaîne de distrib.
Mais en tout cas, voilà, Michel Ange nous a dit pourquoi il n'achetait pas de voiture neuve aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Haute-Garonne, Michel Ange. On va continuer à parler de cette problématique hein, parce que là, enfin, il y a des conséquences sur la filière auto qui sont dramatiques. Toyota, par exemple, ont fermé leurs usines 3 semaines à la rentrée. Là, ils ont réouvert que mi-septembre. Ben voilà, il y a des coûts économiques, il y a des coûts sur l'emploi. On continue d'en parler évidemment aussi avec vous au 0826 300 300.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
On apprend évidemment, et ça se confirme, la chute des ventes de voitures neuves en France. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a qu'en France qu'il y a? Voilà, et en Europe
aussi, c'est la même tendance. On est sur des tendances extrêmement lourdes. Ça fait mal parce qu'on a l'impression qu'il y a la pénurie de semi-conducteurs, déjà dans un premier temps, donc on ne peut pas livrer les voitures. Donc fatalement, c'est difficile de faire monter les ventes. Et au-delà de ça, eh bien, il y a ce vent ambiant, cette bobologie ambiante qui veut casser la voiture parce qu'on a l'impression que c'est devenu ça, le politiquement correct. Alors espérons que ça change parce que derrière, il y a de l'emploi, Lolo. Et l'emploi,
exactement.
C'est 10% des emplois en France.
On en parle, la filière auto. Hein. On en parle aussi avec Fabrice Godefroy qui est patron d'une boîte de
conserve. Sardines.
De distribution de pièces détachées.
De pièces détachées automobiles. Donc je peux vous dire que lui aussi, vous souffrez du coup d'ailleurs parce que très concrètement, on va reparler un peu des causes. On en a un petit peu évoqué les causes, mais les conséquences de la baisse des véhicules d'occasion chez les revendeurs de pièces détachées.
Justement, parce que on vend de moins en moins de véhicules neufs actuellement. Hein, c'est extrêmement compliqué. On a eu évidemment 2020 qui a été très compliqué.
L'année
on a
COVID.
Vendu 1,6 million de véhicules. En moyenne, on vend 2,2 millions de véhicules. Comme c'est juste pour se remettre dans le contexte. En 2021, on n'arrivera pas à ces 2 millions de véhicules. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une grosse inquiétude chez les concessionnaires au niveau des ventes de véhicules neufs. Les véhicules d'occasion, par contre, conservent un marché très important. On est à plus 15 actuellement.
Plus 15% par rapport aux années
plus 15 en plus sur une année 2020 qui n'était pas si mauvaise ça. On n'avait qu'une baisse de moins 4%, je crois. Donc effectivement, c'est là où on voit que le marché de l'occasion est en train de progresser. Et d'ailleurs, on vendait avant 2,5 fois plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs. Maintenant, on en vend 3,5 fois plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs. Donc, l'ampleur du véhicule d'occasion augmente.
Pour les vendeurs de pièces détachées, vous êtes heureux?
Justement, oui, parce que le résultat des courses, c'est quoi? C'est qu'en fait, on n'arrive pas à l'objectif, c'est-à-dire on ne rajeunit pas le parc. Le parc est plutôt en train de vieillir. On était à 10 ans en moyenne, maintenant on est à 11 ans au niveau de la moyenne du parc roulant. Donc, au contraire, le parc est en train de vieillir.
Dans les métiers qui ne sont pas touchés, les garagistes, les mécaniciens, ça va. Eux, ils ont du boulot.
Bah oui, parce que, en fait, on répare de plus en plus de voitures.
D'accord.
Parce que les gens ne changent pas leur voiture par les véhicules neufs, donc conservent leur voiture, achètent des voitures d'occasion et donc demandent un entretien.
Quelles conséquences maintenant sur l'économie européenne et française en termes d'apport d'argent? Parce qu'on sait très bien que, voilà, quand on vend 2 millions de véhicules neufs par an en France, il y a une partie qui revient à l'économie française. Il y aura donc des dégâts collatéraux.
Alors c'est sûr que pour les constructeurs, pour les concessionnaires, c'est compliqué évidemment parce que le marché, on espérait en 2021 non seulement avoir une reprise des ventes de véhicules, donc avoir une meilleure économie et même peut-être compenser les baisses qu'il y avait eu en 2020 et malheureusement ça n'arrive pas. Cette relance ne se fait pas et on l'a expliqué à cause de pénurie de pièces. Donc on a du mal à sortir de cette crise. Donc c'est sûr qu'au niveau économique, c'est quand même un gros problème. Et puis bon après c'est très compliqué pour les concessionnaires actuellement et les constructeurs. On leur met une pression pas possible pour changer complètement modèle, de passer du 100% électrique à de l'hybride à la voiture thermique.
Dans l'autre sens.
Donc c'est quand même un changement de modèle qui est quand même profond. On leur met une pression de plus en plus avec des taxes. Enfin bref, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et en plus de ça, le marché fait qu'au niveau des ventes de véhicules, c'est quand même très compliqué. Donc voilà, le marché actuellement actuellement au niveau des ventes de véhicules, et c'est une économie importante parce qu'il y a tous les concessionnaires. Surtout qu'en plus de ça, il n'y a pas que les constructeurs français, il y a des concessionnaires de marques étrangères. Et c'est en plus des emplois non délocalisables quand même sur le territoire français. Donc il faut quand même en tenir compte. Donc effectivement, quand on fait la guerre sur les SUV, quand on fait la guerre sur le diesel, et en plus, quand il y a une pénurie de pièces, bah, ça devient très compliqué.
Alors juste pour info, quand même, je voudrais quand même, parce que les SUV, on en parle beaucoup dans tous les propos ministériels, je voudrais quand même rappeler ce que c'est qu'un SUV en termes de consommation de carburant. Hein. Une Clio 2, donc une ancienne Clio, ça consomme plus qu'un SUV Renault 4 Jars. Donc il faut peut-être se mettre ça dans la tête quand même. À un moment donné, on est juste ridicule lorsque l'on veut à tout prix taper sur les SUV. Donc voilà, à bon entendeur, hein, monsieur le ministre des Finances, si vous m'écoutez.
J'adore comment Pierre y passe ces petits trucs. On a moins de ventes de véhicules neufs. On a plus de ventes
de véhicules d'occasion.
Le parc roulant en France
est en train de vieillir.
On est d'accord, mais du coup, il y aura moins de voitures. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, on va avoir cette conséquence. Et donc, l'occasion va continuer de flamber.
Alors, c'est justement le problème.
On a un gros souci, là.
C'est justement le problème, c'est que Pierre l'a dit, donc le véhicule neuf a tendance à évidemment augmenter en termes de prix, parce qu'il y a de plus en plus d'options technologiques, donc il faut bien un moment ou un autre. Puis on arrive sur l'hybride, donc c'est deux technologies, c'est à la fois le moteur thermique, mais aussi la batterie électrique. Donc effectivement, c'est des véhicules qui vont être plus chers. Puis on a bientôt le véhicule autonome, etc. Donc forcément, tout ça, ça va avoir un coût. Et le véhicule d'occasion commence à avoir une certaine rareté. Parce que justement, les gens se reportent sur le véhicule d'occasion. Donc, la cote du véhicule d'occasion
est
plutôt en train de monter.
Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un moment, on ne pourra plus s'acheter de voiture, même d'occasion.
Oui, alors je pense franchement qu'à un moment ça va se réguler. Je pense qu'on a un cap difficile. Alors 2020, c'était évident, hein, on a une crise sans précédent avec les concessions fermées, un confinement, enfin bref, très compliqué. 2021, malheureusement, la relance n'est pas là à cause des pénuries de pièces, en espérant que ça va pas durer trop longtemps, parce que les spécialistes annoncent même cette pénurie qui pourrait continuer en 2022-2023. Donc là, ça risque d'être vraiment compliqué. Bon, après, il y a un moment, il va bien falloir. Il y a quand même 40 millions d'automobilistes sur 67 millions de Français, et donc ces gens-là ont besoin de voitures. Donc pour l'instant, ils les entretiennent, ils les changent pas forcément en neuf, mais il y a un moment, on peut espérer qu'ils
relancent. On a un de ces 40 millions d'automobilistes qui nous rejoint au 0826 300 300, c'est Christian qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
De l'Hérault.
J'ai bien écouté.
Vous êtes où dans l'Hérault ?
À 15 km à l'est de Béziers.
Voilà.
D'accord.
Pas du tout, okay. Du côté de chez
entre,
où tu vas en vacances.
Entre Pézenas et Béziers.
T'es sûr? Ça, c'est chez moi, ça.
Cool. Excellent.
Oui, mais en vacances, vous étiez à 7, Pierre Chasseret. Oui, vous n'étiez pas du tout du côté de Béziers, c'est plus haut.
Mais entre Pézenas et Béziers, c'est chez moi, hein. Là, je passe par Agde, je remonte, descends, tac, tac, et j'arrive.
Béziers, Pézenas, c'est dans les terres. Pézenas, c'est la ville de Molière.
Mais je sais, non, mais.
Tu crois, mais on écoute.
Cœur, je connais.
Mais c'est bien.
Alors, okay, on vous écoute.
J'ai bien écouté là, ce que vous avez dit sur les véhicules. Alors, je crois qu'il y a quand même il y a deux compléments d'information à avoir qui sont importants. Le premier, c'est un constat, à savoir est-ce que nous avons réellement les infrastructures pour permettre de recharger ces véhicules qui circulent. Moi, je fais un peu plus de 50 000 km par an. Je ne peux pas me permettre d'avoir un véhicule essence électrique. Je suis obligé d'avoir un véhicule diesel. Conformément à ce qu'a dit un de vos collègues, la consommation SUV, effectivement, est beaucoup plus faible que un certain nombre de consommations de véhicules, même hybrides, essence, qui sont vendus actuellement. Donc, c'est déjà un point important. Deuxième chose, en ce qui concerne effectivement aujourd'hui les équipements. Les batteries, c'est très beau les batteries, c'est très très bien les batteries, mais c'est fait avec un certain nombre de matériaux très nobles, et ces matériaux très nobles, on va les chercher principalement dans les pays du Far East et en Afrique. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, nous avons nos amis chinois qui sont en train de piller l'Afrique pour récupérer un maximum de ces métaux nobles.
Donc
il faudra quand même se poser la question à un moment, est-ce qu'on est capable effectivement, nous, d'avoir une certaine autonomie dans la fourniture de ces équipements. Bon, parce que c'est bien de construire une voiture électrique, c'est bien de construire une Tesla, etc. Mais qu'est-ce que vous en faites des batteries une fois que c'est terminé ? Aujourd'hui, on ne sait pas les traiter. Aujourd'hui, on ne sait pas les traiter. Il faut quand même se poser ce genre de questions. Je crois qu'il faut... il faut travailler sur une énergie de remplacement par rapport à ces énergies qui existent encore, d'ailleurs, puisqu'on est, on n'est pas encore capable de faire l'exploitation complète des énergies du sous-sol. On travaille sur des méthodes énergétiques par des systèmes de récupération d'énergie directement dans le sous-sol. Donc ça, on sait faire aussi. On sait créer d'autres énergies pour les véhicules. On a des gens très intelligents qui ont fait des développements sur différentes énergies qui sont à l'eau, qui sont aussi des énergies basées sur des systèmes de disques.
Mais Christian, si je vous entends bien, en fait, c'est que vous êtes en train de dire, parce qu'on parle évidemment de la chute des véhicules neufs, enfin la chute des ventes des véhicules neufs sur notre émission, c'est que vous seriez pas du tout prêt à acheter une voiture électrique là. Vous nous proposez deux sujets, quoi.
Non seulement je suis pas prêt, mais en plus je vous dis, elle est pas adaptée. Moi, je monte souvent par l'autoroute du Sud, par exemple. Et une fois, je me suis arrêté à une station où il y avait des bornes de recharge. J'ai discuté avec un ami qui a une Tesla, le gros modèle, là. Il m'explique qu'il a attendu quand même 4h30 avant de pouvoir charger son véhicule. D'accord? Alors, quand vous êtes pressé puis vous voulez remonter sur l'autoroute, faut quand même vous poser la question.
Fabrice,
est-ce qu'aujourd'hui nous avons la structure et des infrastructures en fait?
C'est vrai, on n'en parle jamais. Il y a le temps de charge. Vous avez raison.
Attendez, Christian.
Il est où? Christian, il est parti tout droit sur l'autoroute. Là, il a pris la A75. Et Christian, vous avez raison. On ne parle pas assez du temps de charge. Faire un plein d'essence, c'est 1 minute 30. Faire un plein d'énergie électrique pour faire quelques kilomètres, ça va prendre quand même plus d'une heure. Donc, il y a une vraie question de temps.
Fabrice Godefroy voulait réagir aussi. Ouais. Attendez, juste une question, excusez-moi, Fabrice,
que Christian,
voulait réagir
raison,
aussi.
C'est-à-dire qu'il y a un changement de modèle qu'on essaye actuellement de nous imposer quelque part.
Hein, parce que en train de réussir.
Tout est convergent, évidemment, sur le véhicule 100% électrique, notamment au niveau des bonus, plus sur le moteur thermique. Mais malgré ça, on est passé de 6,5% de 100% électrique vendu en 2020 à 8% en 2021. Donc c'est vrai que ça a du mal à arriver. Bon, il a raison, effectivement, Christian, sur l'extraction du lithium et du cobalt, sur le raffinage, effectivement, de tout ça, de ces batteries, en plus qui sont évidemment fabriquées à 85%, en plus les batteries électriques en Asie, donc c'est sûr que pour l'industrie européenne, pour l'instant, c'est pas forcément un atout, évidemment.
Oui, mais est-ce que selon vous, Fabrice, puis je vais redonner la parole à Christian, qui veut... Ça déstabilise l'acheteur, en fait.
Je pense que ça déstabilise, parce qu'on voit très bien que... les gens se posent la bonne question, souvent, Christian a une maîtrise parfaite du sujet, et pourtant, on essaie de nous l'infuser. Donc, quelque part, et puis en plus, il y a la pression des zones de faible émission, on nous dit que de toute façon, bientôt, on pourra plus rouler qu'un moteur thermique. Donc les gens sont en statu quo sur le changement de voiture.
Ce qui expliquerait aussi pourquoi il y a une baisse des voitures neuves et pas simplement à cause des composants. Christian, pour conclure, vous voulez réagir, nous reste une petite minute.
Je voulais juste rajouter aussi un élément qui est quand même important, parce que j'ai discuté, moi, avant de changer de véhicule, j'ai discuté avec pas mal de concessionnaires. On vous fait l'apologie de l'alimentation électrique. Venez, je vais vous mettre une armoire électrique chez vous, il n'y a aucun problème, etc. On oublie juste une chose, et on a fait quelques tests là-dessus pour alimenter un certain nombre de véhicules électriques. Le prix de l'électricité en France aujourd'hui, il va être exponentiel.
Ah bah
évidemment, voilà.
Dit, en vous disant, monsieur, on va vous faire faire des économies extraordinaires et ça va vous coûter 20 centimes, 30 centimes. Je pense qu'il serait intéressant de relever cette discussion-là d'ici à peu près 4-5 ans.
On l'a fait.
Vous allez voir un prix de l'énergie, parce qu'on est incapable de fournir l'énergie actuellement, puisqu'on arrête nos centrales nucléaires. On est incapable d'être autosatisfaisant en électricité. On l'achète à l'extérieur et aux Allemands. Ce prix-là, il va augmenter en flèche.
Non, mais vous avez raison. Tous ceux qui sont en train de promettre la fin des centrales.
Déjà, Christian, on paye une fortune. Pour conclure, Pierre.
Mais tous ceux qui nous disent, ouais, ça va être la fin des centrales nucléaires, regardez, machin, et puis tout sera gratuit, et les énergies renouvelables, et il y aura de l'emploi, et machin, et tout. Bon, bah, ça, c'est du doux rêve, quoi. Merci les bisounours. J'adore les bisounours, j'ai un grand respect pour les bisounours, mais je sais que ça n'existe pas.
Bah, en tout cas, merci beaucoup, Christian.
Il faut travailler absolument avec l'énergie, une autre énergie qui est étudiée aussi beaucoup par l'armée actuellement, principalement l'armée israélienne, et maintenant l'armée française.
Pour conclure, Christian. Non, s'il vous plaît.
Les énergies nucléaires, quoi.
Ah bah de toute façon,
il n'y a pas de souci.
Mais vous savez, en radio, malheureusement, on a beaucoup d'énergie pour partager avec vous, mais il nous manque du temps. Et en tout cas, vous êtes hyper passionnant, Christian, et je vous invite à nous rejoindre prochainement sur d'autres sujets, parce que c'est toujours hyper intéressant de discuter avec vous, vous qui parlez vrai aussi sur Sud Radio. Allez, à suivre. Bon dimanche soir, Christian. On va parler des voitures autonomes. Figurez-vous qu'une enquête, une étude, nous annoncerait qu'en 2050, nous serions tous au volant. Ah bah non, il y aurait plus de volant. Nous serions tous dans des voitures autonomes. À tout de suite.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous continuons ensemble, évidemment. Je vous rappelle que dans un quart d'heure maintenant, vous avez rendez-vous avec Pierre Chasseret qui prend sa casquette de DG de 40 millions d'automobilistes pour débattre et échanger avec vous sur tous les sujets qui vous concernent sur la mobilité, sur les politiques routières, sur ce qu'on nous oblige ou pas. Inscrivez-vous dès maintenant 0826 300 300. Mais tout de suite, on va parler de la conduite autonome. Deviendra-t-elle la norme? Une étude
dit que les véhicules de ce type seront les plus répandus d'ici 2050. Mmh. Êtes-vous d'accord ou pas, Pierre ? On garde d'ailleurs notre ami Jean-Rémy Macchia, qui s'y connaît bien aussi en voiture autonome, et on accueille notre invité. Il s'agit de Louis Lemoine, qui est un expert auto et expert, entre autres, conduite autonome auprès de l'Université de Bourgogne. Bonjour, monsieur Lemoine.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Louis.
Ravi d'être de retour parmi vous.
Ouais, ravi de vous accueillir.
C'est vrai que Louis Lemoine est un habitué de Ça roule. Hein. Il nous suit depuis maintenant quelques années. Dès que ça touche à la voiture autonome, hop, on vous appelle à l'Université de Bourgogne. Alors, moi déjà, je m'interrogeais sur la date, parce qu'on nous dit 2050, ça paraît loin, 2050.
Mais pas
on est en 2022. 2050, c'est dans pas longtemps. 28 ans, ça fait deux générations de voitures, à peu près. C'est jouable, ça ? Que des voitures autonomes en 2050, où on nous joue un petit peu de flûte ?
Non, c'est parfaitement jouable, mais comme partout, c'est une progression plus ou moins lente. Il y a aujourd'hui des voitures autonomes. Hein.
Ah, j'ai vu un bus. J'ai vu un bus en couronne parisienne qui circule en autonome. Tu as vu ça, Jean-Rémy Macchia ?
On n'a pas de voiture totalement autonome. La voiture autonome, elle se subdivise en 5 degrés croissants d'autonomie de 1 à 5. Le niveau 5, c'est le degré absolu de l'autonomie.
C'est-à-dire qu'on ne fait rien, là.
La voiture peut se passer de volant, ouais. Et vous pouvez être dos à la route, en train de taper une belote, de regarder sur Internet, de visionner un film, de faire ce que vous voulez, sauf conduire. Et la voiture n'a plus besoin de conducteur. Aujourd'hui, on en est au niveau 2.
Wow.
C'est-à-dire qu'on est quand même à plusieurs marches, surtout que ces degrés, ces niveaux se subdivisent en strates intermédiaires. Donc là, on en est à peu près le top du 2. Le 2, ça veut dire quoi ? Une voiture est capable de suivre une trajectoire, d'accélérer quand devant elle, ça accélère dans la limite des limites de vitesse, bien sûr, et de freiner quand devant elle, ça freine jusqu'à l'arrêt complet, et après de gérer le redémarrage quand ça redémarre devant elle. Ça, c'est aujourd'hui. Il y a quelques fonctionnalités supplémentaires qui arrivent. Quand vous mettez le clignotant, la voiture comprend qu'il y a ou non quelqu'un derrière, dans l'angle mort, pour déboîter ou non. Elle peut déboîter toute seule. Ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Là, c'est le niveau 2 plus. Mais cela vous oblige à remettre les mains sur le volant pour dire que vous êtes là toutes les 2 minutes grand maximum. Pour la première fois, là, en 2021, 2 voitures, pas 3, pas 15, pas 1000, sont commercialisées avec une autonomie de niveau 3. Ce sont les Honda Legend, commercialisée en Europe, et la nouvelle Mercedes classe S, un très haut de gamme, à 100 000 euros et
ouais,
plus.
Ouais, mais alors...
Et donc, l'autonomie de niveau 3, c'est vraiment être capable, sans qu'il y ait un rappel de la pose des mains sur le volant, de conduire seul, mais pour l'instant, ce n'est possible que sur des voies à double circulation, avec une séparation entre les deux sens de circulation, et jusqu'à 60 km/h, pas au-delà. Donc on est quand même très loin, très très loin d'une voiture totalement autonome.
Moi je voudrais bien avoir, parce que là vous nous avez expliqué, c'était très clair monsieur Macchia, le côté très
tant
technique
mieux,
de 1 à 2 à 3, les niveaux. Mais moi ce que je voudrais voir avec notre invité Louis Lemoine, qui est expert des véhicules autonomes et professeur à l'Institut supérieur de l'automobile et des transports, c'est nous les êtres humains. Monsieur Louis Lemoine, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est vraiment prêt à se laisser faire ?
Écoutez, oui, hein, je pense que nous sommes tout à fait prêts. Alors, évidemment, il y a tous ceux qui adoreront prendre le volant et faire un petit tour sur la route, etc. Mais il y a des millions et des millions d'automobilistes qui doivent aller au travail quotidiennement et pour qui c'est plutôt une contrainte.
Ouais, je pense.
Il faut voir que le véhicule autonome, c'est avant tout la vente de services sur le véhicule. C'est la possibilité de faire autre chose qu'être dans un bouchon ou de faire toujours la même route, etc. Ouais. etc. Ah,
mais et comme ça, vous je l'avez pense dit, que c'est de la
pour
vente
le meilleur
de service.
Pour le pire, nous sommes prêts très, très majoritairement à ça.
Alors, Louis Lemoine, je lis, il y a les voitures et puis après, il y a les bus. Et la RATP, depuis le 14 septembre, a mis en ligne une ligne de bus qui va accueillir du public dès 2022, là, pour l'instant.
Voilà. Pour l'instant, c'est en test.
Voilà, c'est en test.
Ce n'est pas grandeur nature.
Voilà, mais c'est intéressant parce que là, pour le coup, alors, il y aura quand même un conducteur, évidemment, bien sûr, on n'est pas au niveau 5, comme le disait Jean-Rémy. Cependant, on voit que ça progresse. Moi, je me demande si...
Ah, ça progresse, c'est sûr.
Je me demande si l'avenir... Oui, encore heureux. Je me demande si l'avenir du véhicule autonome passe pas justement d'abord par des transports en commun qui roulent sur des trajets qui sont toujours les mêmes, qui peuvent être assez identifiés, avec des voies dédiées, comme le rappelle Jean-Rémy Macchia, plutôt que sur des voitures. 2050, Louis Lemoine sur nos
ça
voitures,
fait, ça...
j'ai l'impression que c'est très tôt. Et puis surtout, je vais vous dire, Louis... Je ne suis pas prêt à lâcher le volant.
Alors vous...
Mais non, mais je vous connais.
C'est notre question.
Vous n'êtes pas prêt. vous n'êtes pas prêt, mais il y a beaucoup de excusez-moi de l'expression, de ménagères de moins de 50 ans ou de monsieur tout le monde qui, eux, sont tout à fait prêts parce que c'est une contrainte, la conduite, l'attente, etc., au quotidien.
Ouais, mais il va y avoir des accidents quand même, faut le savoir.
Ah, je rebondis là, sur
un accident. Non, excusez-moi.
Alors, attendez, laissez finir, Louis.
Oui, justement pour dire, c'est une progression. Bien sûr, vous dites qu'il faut expérimenter les transports en commun autonomes. Bien sûr, le transport autonome, c'est avant tout de la communication entre véhicules et infrastructures. Et pour ça, il faut apprendre au système automatisé à conduire. Et il faut donc beaucoup d'expérience, beaucoup de retours d'expérience sur du véhicule particulier, sur du transport en public, sur tout un tas de configurations. Et au fur et à mesure que les infrastructures, elles, seront communicantes, le véhicule autonome s'y retrouvera beaucoup.
Vu l'état des routes, alors, Jean-Rémy aujourd'hui, Macchia, on fait le point sur l'évolution vers l'autonomie de conduite. Rien que la marque Tesla, qui se vante d'être au niveau mondial la plus avancée en termes d'automatisme de conduite, on en est chez elle à 5 morts. 4 accidents qui ont fait 5 morts. Elon Musk, le patron de Tesla, se défend en disant « oui, mais... » Jusqu'à présent, il faut bien qu'un conducteur responsable et susceptible de reprendre les commandes à tout moment soit derrière le volant. Donc, s'il y a eu accident, dit-il, c'est parce que le conducteur, en pilotage automatique, n'était pas prêt à reprendre éventuellement le volant.
Mais c'est normal, on ne peut pas reprocher à celui qui est derrière le volant en autonome de ne pas être totalement concentré.
Et deuxième point, on parlait des navettes et des bus qui, effectivement, dans des voies dédiées, peuvent être amenés à avoir une conduite autonome avec des conditions techniques simplifiées. Je rappelle juste que là, au jeu paralympique de Tokyo, il y a eu quand même un athlète non-voyant qui a été renversé par une navette Toyota. La navette Toyota n'a pas vu le non-voyant, n'a pas vu le sportif. Ouais, ouais. En attendant, il a été blessé, il n'a pas pu participer au jeu. Et donc, c'était sur une voie dédiée, à une petite vitesse, heureusement, mais même dans les circonstances les plus simples, il semblerait qu'il y ait encore des bugs. Ouais. Donc, pour se prémunir de cela, on va avoir une marche prudente et ralentie vers l'autonomie croissante de conduite.
On a beaucoup de monde au standard, donc on va donner la parole également, on va accueillir Jean-Paul et Joseph également qui sont avec nous, mais juste, moi je vais me mettre encore une fois un pavé dans la main, vous savez, surtout Pierre, que j'adore être l'avocat du diable, c'est que quand on a créé la voiture, il y a plus de 100 ans, plus d'un siècle, etc., il y a eu des morts avec les premières voitures aussi sur les routes. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y en ait avec les voitures autonomes, mais est-ce que ça fait pas partie des choses un peu logiques et normales de l'évolution et de la création?
Oui, mais on veut pas être les cobayes.
Non, on est d'accord. Jean-Paul est avec nous. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour à tous.
Vous êtes à côté de Tours.
Non, à côté de Pau.
À côté de Pau.
Ouais, c'est pareil.
Ah, pardon.
Non, bah, c'est non. À côté. C'est à côté. Si on plie la carte.
Non, mais je suis pas. Oui, mais enfin, on peut faire un tour à Pau.
On peut faire un tour à Pau.
Et
voilà,
on peut avoir de la chance d'aller faire un tour. Bon, et on a Joseph Dugard qui est également avec nous. Bonjour, Joseph.
Bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir.
Alors, juste Jean-Paul à côté de Roubaix. Pau, on vous écoute.
Non, mais c'est. Enfin, pour moi, c'est des bêtises. On n'arrête pas les conneries. Les voitures électriques, on veut mettre les voitures électriques dans les villes, alors qu'on est juste en électricité pendant l'hiver quand il fait froid. L'alimentation électrique, on va la chercher où, là, avec les voitures électriques dans les villes? Maintenant, on veut mettre des voitures autonomes. Alors, si le gars, si jamais ça fonctionne plus, il faut qu'il fasse attention quand même. Je vois pas l'intérêt de se promener dans une voiture et d'être attentionné, voir si son système marche bien, alors qu'à tout moment, il faut revenir dessus pour reprendre la voiture.
C'est pour l'instant, dans l'état actuel des connaissances et dans l'état actuel de ce qu'on a le droit, en tant que constructeur, de mettre sur le marché, il faut qu'il y ait toujours un conducteur responsable, susceptible de reprendre les commandes, si le besoin impérieux.
Il a raison, Jean-Paul. Pour l'instant,
c'est aberrant.
C'est dans la loi. Monsieur Louis Lemoyle, que pensez-vous de l'intervention de Jean-Paul avant d'écouter Joseph?
Non, mais aujourd'hui, ça semble effectivement très contradictoire d'avoir un véhicule qui est censé rouler tout seul, mais qu'il faut surveiller. Mais comme mon interlocuteur aussi sur Studio l'a dit, nous sommes dans un cadre juridique qui s'accompagne et qui accompagne l'évolution technologique. Aujourd'hui, un constructeur ne pourrait pas, même s'il était capable, mettre un véhicule totalement autonome sur la route.
Il n'aurait pas le droit.
Il y a une responsabilité juridique à la clé et ce n'est pas encore abouti. Donc 2050, oui, c'est un horizon réaliste, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais je pense qu'on y arrivera de toute façon.
Disons que c'est un objectif ambitieux.
C'est ça. Mais en même temps, c'est bien d'avoir des objectifs. Hein. Oui. Jean-Paul, au-delà de ce que vous nous avez dit et qui est complètement entendable, est-ce que vous, en tant qu'être humain, en tant que Jean-Paul qui habite en faisant un petit tour du côté de Pau, vous seriez prêt quand même un jour à tenter, à tester et peut-être même à avoir une voiture autonome?
Non, du tout, parce que j'aime conduire. Ouais, donc, ça me dérange pas de conduire 15-18 heures par jour.
Wow.
Ça me dérange pas du tout. Au contraire, je préfère.
Marathonien de la conduite.
Voilà, je préfère te mettre sur mon véhicule. Voilà, après, je travaille en agricole aussi, donc je fais beaucoup d'heures en tracteur. Autant en tracteur, un GPS, vous voyez, dans le champ.
Et un tracteur autonome.
Voilà, faire du joli travail, mais on reprend quand même le volant pour tourner au bout du champ.
Bah
autant
oui.
là, ça sert, parce qu'on peut faire des travaux de nuit qu'on ne peut pas faire deux jours si on n'a pas ce système. Mais autant en voiture, je vois vraiment pas l'intérêt. On ferait mieux de s'occuper de remettre les gens au travail en France plutôt que de parler de conneries pareilles. Excusez-moi l'expression, mais à un moment donné, on a besoin de plein de main-d'œuvre étrangère. Et si on a besoin de la main-d'œuvre étrangère, c'est que le français, il se tord pas beaucoup les ongles, au lieu de penser à des trucs pareils qui ne tiennent pas debout, parce que si le système ne marche plus, il faut reprendre le volant.
Merci beaucoup.
Je comprends plus.
Mais de toute façon, vous avez la parole et vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio. Et vous êtes les bienvenus. Voilà. Jean-Paul, je vous laisse passer une très belle journée du côté de Pau. On accueille Joseph Dugard et on l'écoute également.
Merci.
Salut Jean-Paul. Bonne journée. Bonne soirée, puisqu'on est déjà dimanche soir. Bonne semaine prochaine. Salut Joseph.
Oui, de nouveau bonjour à tout le monde, et à vos auditeurs, et ceux qui sont sur le plateau, bien sûr.
On vous écoute.
Il y a deux choses que je veux soulever, ça va être bref. Où va s'arrêter la technologie? La technologie, aujourd'hui,
elle sert,
mais elle est malheureusement, à des moments donnés, contre l'humain, c'est-à-dire qu'on veut nous enlever notre propre autonomie à travers ce qu'on est en train de débattre, parce que quel plaisir de prendre son véhicule et d'aller faire une petite promenade et en se servant de ses mains, de ses pieds, de son cerveau. Moi, je reste là-dessus. Il faut absolument que nous gardons, nous, être humains, notre autonomie.
Et notre humanité, je suis bien d'accord avec vous. Simplement, là, on parle simplement de rationalité. Alors, je reconnais que d'un point de vue humain, c'est un peu sec et un peu privatif.
Mmh. Alors, après, il faut savoir que dans le véhicule autonome, là, on a déjà les prémices qui sont parfaitement intégrées. C'est-à-dire que les premières technologies de véhicules autonomes, ça a été, par exemple, le radar de recul. Tiens, ça, c'était le début.
Oh, même avant, le régulateur de vitesse.
Le régulateur de vitesse,
ça existe depuis les années 70.
L'assistance pour faire les créneaux, même si ça marche pas toujours, il faut quand même une certaine distance. Voilà. Mais ça fonctionne plutôt pas mal. Et on s'y fait petit à petit. C'est-à-dire que et Louis Lemoine va certainement ne pas me contredire, Louis, mais en fait, le véhicule autonome, il va pas arriver du jour au lendemain. C'est petit à petit comme ça.
Tout à fait. On parlait de mort sur la route, etc. Aujourd'hui, sur les véhicules neufs, vous le savez, les véhicules neufs freinent à votre place. 4 millisecondes avant un accident,
c'est vrai.
Le véhicule
le mien
a le droit de prendre le relais et de freiner à votre place. C'est une loi européenne qui date maintenant d'il y a 4 ou 5 ans. Le véhicule, s'il détecte une situation d'accident, freine à votre place.
Alors ne testez pas, mais c'est...
Si on freine un peu très tardivement un passage clouté, etc., vous avez peut-être déjà eu ce petit contre-temps de vous retrouver un petit peu projeté en avant. Et ben voilà, ça c'est de l'autonomie de véhicule.
Je l'ai vécu avec un taxi qui m'a coupé la route et ma voiture a freiné tout seul.
Tu étais tranquille sur ton téléphone
quand
tout
à coup. Jamais au téléphone, non, ça va pas, n'importe quoi. Sérieusement, c'était assez impressionnant.
Ouais, alors c'est un désagrément, mais bon, quand ça marche, évidemment, à bon escient, ça sauve des vies aussi.
Donc, alors, pour conclure, la marche vers la voiture autonome, ça suppose aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, j'y reviens, que les voitures communiquent entre elles et qu'elles communiquent avec ce qu'on appelle la route intelligente, c'est-à-dire les infrastructures. Et ça demande deux choses. D'abord, que les infrastructures soient équipées. Ensuite, qu'il y ait une puissance de calcul embarquée à bord des voitures qui soit phénoménale. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait sous-estimé pendant des années lors des prémices et des débuts de conception de la voiture autonome. On en prend conscience aujourd'hui et on se rend compte que les investissements nécessaires pour le développement de cette capacité de calcul embarquée vont être colossaux, tellement colossaux que ça peut retarder ou étaler plus dans le temps le calendrier d'arrivée vers la voiture autonome. Petite virgule terminale, l'autonomie de pilotage, ça a été inventé sur un avion français en 1958 sur la Caravelle. Première fois qu'on parlait de pilotage automatique.
L'homme a toujours évolué, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête aujourd'hui. La seule question sera...
Et les femmes aussi.
Est-ce une évolution ou pas? Avec un H, un grand H, Pierre Chasseret. Merci beaucoup Jean-Rémy Macquia.
Merci à vous.
Merci également à Louis Lemoine, qui est expert des véhicules autonomes et professeur de l'Institut supérieur de l'automobile et des transports. Vous êtes en Bourgogne à l'université. Quant à nous, eh bien, on passe au moment où vous êtes attendu pour échanger avec l'ami Pierre Chasseret, DG de 40 millions d'automobilistes, également au micro de Sud Radio.
Sud Radio, ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 19h en ce dimanche soir. J'espère que vous êtes bien en train de préparer le dîner ou encore au volant de la voiture pour rentrer le week-end. Alors Pierre, c'est un rendez-vous maintenant qu'on a installé depuis la rentrée. Nous avons, enfin surtout toi, le plaisir et le bonheur d'échanger avec ceux qui veulent venir parler avec toi de ce qui se passe sur la route, dans un but assez précis.
Ben, année de la présidentielle, hein, on va faire une grande compilation avec l'association 40 millions d'automobilistes de ce que vous pensez. Je le rappelle tout le temps, hein, 40 millions d'automobilistes, c'est la seule association d'intérêt général qui est là pour porter la parole de ceux qui roulent. Donc vous, eh bien moi, je pèse que dalle moi là-dedans. Moi, je suis juste votre porte-voix. J'essaye de dire à peu près correctement ce que vous nous dites. Donc le mieux, eh bien, c'est de vous entendre, de vous donner la parole. Quoi de mieux que Sud Radio et de Parlons Vrai sur Sud Radio pour le faire. Donc je vous écoute. Si ça colle, eh ben on le propose. Si je peux vous apporter des éléments de précision parce que c'est mon métier, eh ben je le fais. Et puis à la fin, on finit par avoir une prise de position forte qui sera entendue par les candidats à la présidentielle.
Frédéric nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Frédéric.
Bonjour Laurence. Bonjour Pierre.
Vous êtes Frédéric. En Gironde.
Oui, exactement.
À côté de oui. Tourcoing. Donc.
Et vous êtes routier, vous.
Bien sûr. Oui, routier. Voilà. Oui, bien sûr.
Donc
oui.
La route, donc, vous connaissez vraiment... bien.
Oui. Oui, et bien sûr, pour ces présidentielles, on est les grands oubliés, quoi. On est les grands oubliés.
Ah, c'est intéressant. Les routiers, vous dites ?
Oui, routiers. Ah
bah, vous voulez dire les héros d'il y a 3 ans, ceux qu'on...
Non, 2020, il y a 2 ans.
Oui, il y a 2 ans, ceux qu'on applaudissait.
Il y a 1 an et demi.
Ceux qui nous ont filé à bouffer pendant qu'on avait peur de sortir.
Bien sûr, bien sûr, on était les héros, puis aujourd'hui, on est les pollueurs.
Ouais, mais c'est vrai.
Quand vous dites que vous êtes les grands oubliés...
Bah pourquoi ? Parce que actuellement, je vois hein, au quotidien, on essaie de nous imposer des normes qu'on ne peut pas respecter. Étant donné que si vous regardez un petit peu la grande distribution qu'on livre régulièrement, ils essayent un peu de trouver des partenariats pour qu'on roule au gaz. Mais le gaz c'est très bien pour faire des petites distances, mais pas pour traverser la France. C'est
pourquoi
impossible.
En fait, ce que vous dénoncez, c'est un petit peu le politiquement correct du camion pollueur. Faut arrêter avec les camions. Et blablabla et tout le bazar.
Après, on peut pas arrêter avec le camion, mais il nous propose une alternative qui est pas tenable.
Bah on peut l'arrêter, mais il roule plus.
Ah ben oui, mais alors d'un autre côté, alors croyez-moi, mon patron actuellement, il fait partie d'un groupe où il y a le hashtag mon camion utile, voilà. Un peu pour dénoncer qu'est-ce qui va se passer après si on fait cette fameuse politique on interdit les camions dans les rues, on veut plus les avoir dans les cœurs de ville. Donc on fait comment pour acheminer des objets volumineux aux gens qu'ils ont commandés sur le net? Ils font comment pour leur chambre à coucher, pour leur living, tout ça.
Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est tous un peu pareils. Là, j'ai entendu que pendant les 3 derniers mois, 44% des Français, je crois, hein, je me trompe peut-être d'un pourcent ou deux, 44 millions de Français, c'est-à-dire énormément, ont commandé par Internet. Voilà. Alors, j'ai vu le chiffre, je me suis dit waouh ! Et en même temps, j'ai réfléchi, je me suis dit bah, moi aussi, ça m'est arrivé. Eh bien, il faudrait peut-être qu'on découvre que tout ce qui arrive par Internet arrive par un camion. Il y a toujours un camion en bout de chaîne. Ou voilà, au début de la chaîne. Et qu'est-ce que vous répondez à tous ceux, un peu dans des discours un petit peu verts, vous voyez, qui vous disent le camion c'est pas bien, ça pollue, bah caca, pas beau, alors qu'on pourrait mettre tout ça dans des trains sur du ferroutage. Est-ce que vous pouvez, vous, du métier... Eh ben oui, mais j'ai besoin de vous... Et pourquoi ? Expliquez à tous ceux qui nous écoutent, parce que moi-même, dans ma famille, dans mes amis, on me dit, oui, mais les camions sur la route, regarde Pierre, ça sert à rien, on pourrait mettre ça sur le ferroutage, sur la ligne de chemin de fer. Expliquez-nous.
Ben déjà, je crois que la Cernam a déjà vachement retiré le ferroutage parce que c'est pas rentable.
C'est pas rentable. Ouais.
C'est pas rentable, bien sûr. Et il y a qu'un pays qui a réussi à faire ça parce que c'est un petit pays, c'est la Suisse.
Ben évidemment, mais c'est pas du tout la spécificité française. Alors on va le rappeler ensemble. C'est que la France c'est 1 million de kilomètres de voirie. C'est que la France elle est rurale. La France c'est pas Paris, c'est pas le cœur de ville. La France elle est rurale. La France est vie. Elle a besoin de petits commerçants locaux parce que c'est bien beau de vouloir assassiner tous ceux qui habitent en dehors d'une grande ville. Mais on est quand même très content de traverser ce joli pays, y compris quand on est très urbain. Et les camions. Alors moi je vais vous dire le problème aussi majoritaire que j'entends
temps autour des camions, vous allez peut-être pouvoir nous répondre là-dessus aussi, ça c'est intéressant. Dans beaucoup de petits villages, de plus en plus, on voit maintenant les camions qui traversent les villages. Et on se dit, mais pourquoi il y en a autant? Il y en a certainement qui livrent dans le coin, bien sûr, il y en a d'autres qui ne prennent plus l'autoroute. Pourquoi?
Oui. Alors, ça, moi je dirais, ça dépend aussi des transporteurs. Certains imposent de prendre des axes secondaires parce que c'est trop cher.
Ah, voilà.
Et moi je suis dans une bonne maison, hein, où mon patron, il dit, t'es seul maître à bord, c'est toi qui décides de ton itinéraire.
Voilà.
Mais ils sont pas tous pareils, hein,
c'est une politique. Le voilà le problème. Parce que mon routier est sympa, Max Meynier, on a tous du respect quand on fait sa roule avec Lolo derrière. Mon routier est sympa.
Fille de routier.
Voilà, elle fille de routier, on y pense.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tarifs autoroutiers sont trop chers pour les Français. Ils sont trop chers pour les transporteurs.
Bien sûr. Donc, après, il faut les répercuter, hein, parce que le transporteur, il ne va pas le payer, ça. C'est un service.
C'est ça. Et maintenant, on tire les prix. Hein. On veut tous moins cher. Moi aussi, je veux moins cher. Mais on ne peut pas vouloir tirer les prix tout le temps. Et au bout d'un moment, les économies de bout de chandelle, c'est ça qui fait les économies d'échelle. Eh bien, les bouts de chandelle commencent par les péages. Moi, je me dis que les péages sont trop chers en France et aussi pour les routiers.
Bien sûr.
Voilà.
Et vous, en tant qu'homme, vous, évidemment, vous êtes un homme, Frédéric, mais en tant que routier, vous disiez que vous sentiez mal compris ou tout du moins oublié par nos gouvernants. Qu'est-ce que vous leur demanderiez? Enfin, voilà, si Pierre doit mettre, même si c'est 40 millions d'automobilistes, on peut faire une petite parenthèse, et routier.
Non, mais un routier, c'est un automobiliste. Hein.
qu'est-ce que Pierre pourrait mettre dans ce fameux livre qu'il devrait proposer aux candidats?
Ben déjà qu'on se penche un peu sur les nouvelles technologies qui ont été apportées justement pour plus polluer les routes, hein, parce que les camions ont fait énormément d'efforts avec la Diblou, hein. Ça a été les précurseurs. Hein.
Oui, moins en fait, moins. Moi je dis jamais ne plus parce que ça sous-entend qu'il n'y a plus d'innovation possible. Donc ils polluent moins.
Ils ont fait beaucoup d'efforts. J'ai pas dit qu'ils sont arrivés au maximum. Ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts. Bon, bien sûr, l'État a imposé ces normes-là, mais une fois que l'État a imposé, maintenant on dit quoi? On dit, finalement, on veut plus de vous quand même. On a fait un gros effort, mais par contre, on veut plus de vous quand même. Donc là, c'est pas normal. Après, moi, je pense un truc, hein, et parce que je suis fidèle de votre émission, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez dénoncé massivement le fait que Paris a voulu absolument tout mettre sur la faute sur l'automobiliste. Au moment où il n'y avait plus aucune voiture dans Paris, comme par hasard, un pic de pollution. Vous vous rappelez? C'est
bien
pas
sûr.
Si mieux que ça. Mais est-ce qu'il y a eu une suite, parce que hormis chez vous, j'en ai pas entendu parler du tout, et même par la suite, il n'y a pas un homme politique qui a dit, mais au fait, est-ce qu'on pourrait au moins se pencher sur ce problème, parce que c'est quand même un réel problème international.
Je vous donne la clé, rapide, hein, c'est qu'en fait, si vous voulez, on arrive à des... Il n'y a pas que la voiture qui pollue, hein, il n'y a pas que les entreprises, il n'y a pas que le... En fait, il y a une multitude de facteurs. Ah. On abaisse systématiquement les normes, c'est-à-dire que ce qu'on considère comme une qualité de l'air moyenne aujourd'hui, il y a 2 ans, on considérait ça dans la catégorie bon. Alors, c'est plutôt pas mal, parce que ça pousse les industriels à faire l'effort. Ce qui n'est pas bon, c'est quand ce signal sert des intérêts politiques pour dénoncer des choses dont ils ont eux-mêmes besoin. Et moi, ce que je proposerais, si vous en êtes d'accord, pour aider la France des campagnes, ceux des petits villages qui en ont marre de voir leurs camions devant les roues et des routes, etc., et qui, en fait, aiment beaucoup les camions, eh bien, c'est sans doute une réhabilitation de l'image du routier, parce que mon routier, il est sympa, il me donne à bouffer, donc il est sympa. Et puis, le deuxième point, c'est que vous bénéficiez de quelque chose sur les autoroutes. Il ne faut pas une taxe en plus, il faut des taxes en moins.
Faut un levier qui puisse aider tout le monde et pas une taxe punitive.
Merci beaucoup Frédéric, en tout cas d'être venu échanger avec Pierre sur Sud Radio. Ça roule le dimanche soir, on vous souhaite bonne route.
Merci bien, au revoir.
Prenez soin de vous et bonne route aussi dès demain en reprenant le volant de votre camion. Écoute Pierre, je sens qu'on a d'autres personnes, hein, qui sont inscrites sur le répondeur et sur la liste pour venir échanger avec toi.
Ça va faire un gros livre à la fin de l'année.
Dimanche prochain, on vous accueillera de nouveau dans Ça roule sur Sud Radio. Je te souhaite une belle soirée.
Allez, à toi aussi Malolo. Vous êtes prudent sur la route, on se retrouve la semaine prochaine. On n'a pas encore choisi les sujets, mais vous inquiétez pas, c'est la présidentielle, on va en avoir.
Allez, bon week-end à tous et les programmes continuent sur Sud Radio.